dans le monde a ainsi baissé de 99,9%. Mais comme souvent, la difficulté réside dans le dernier effort à fournir pour débarrasser totalement le monde de la polio. Ça passe donc par une meilleure couverture vaccinale en Afghanistan et au Pakistan, mais également dans une dizaine de pays africains, parfois confrontés à la résurgence d'une quatrième souche, beaucoup plus rare.
Les explications de Simon Rosé sur RFI. Enfin, un mot de foot pour finir, pour vous signaler qu'après la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa ce soir. Rennes accueille les Roumains de Cluj et Saint-Étienne, les Ukrainiens d'Alexandria. RFI à 18h10 à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse sur le 101.5 de Radio G. C'est la quotidienne des actualités culturelles et locales qui vous parle maintenant. Aujourd'hui, c'est jeudi et un jeudi sur deux, on retrouve la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît. Personnellement, je ne vis que pour cette chronique, que pour ce moment de savoir partagé. Je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission pour connaître les sorties, l'agenda et l'actualité de la recherche. Mais avant, je vous propose de terminer cette semaine radiophonique en musique. Et je vous propose pour cela un format jeudi rediff. Oui, j'ai été plongée dans les archives de cette émission. Nous avions reçu en décembre un groupe, un duo pop, dont je vous ai parlé très rapidement hier. C'est Kiss Doom Fate. Ils ont tous les deux sorti un EP en tout début de ce mois d'octobre. Il est à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute habituelles que vous utilisez déjà pour découvrir de la musique. Il s'appelle Kiss Doom Fate. Et je vous le disais, ils étaient venus en toute fin d'année 2018, donc je vous propose de découvrir à nouveau comment ils travaillent, comment ils se sont rencontrés, qui sont-ils et à quel point ils sont extrêmement gentils. Et sinon, sachez que ce projet a pris énormément d'essor depuis qu'ils sont passés derrière le micro, qu'ils ont fait beaucoup de scènes et que je vous invite à aller les voir jouer en live. C'est quand même vraiment mieux. Enfin, pas mieux, mais c'est différent. Bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. On est avec Kiss Doom Fate en rediffusion ce soir. Ici, Anneli derrière le micro. On est ensemble jusque 18h50, si je ne suis pas en retard. C'est parti pour la plongée dans les archives. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathilda. Bonsoir Mathilda.
Bonsoir.
Et Yves-Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, je me suis trompée de micro. Bonsoir Yves-Paul.
Bonsoir.
Voilà, je vous dis tout. Et vous êtes tous les deux de Kiss Doom Fate, donc un duo. Et peut-être la question que j'avais envie de vous poser pour commencer, c'est quels seraient les mots-clés de ce projet musical? Est-ce qu'il y a des mots-clés?
Bah, on peut en trouver en tout cas. Non, c'est un projet sur lequel c'est la première fois qu'on est dans un duo. C'est-à-dire, moi avant j'étais dans un groupe de rock, Mathilda toi t'es plus dans un projet solo folk. Mm-hmm. Et du coup là on est sur un projet qui est vraiment très personnel de nous deux et on est vraiment dans la collaboration.
Donc je dirais que on s'amuse beaucoup, donc un mot-clé pourrait être la danse, l'amusement.
Le plaisir.
Ouais, le plaisir. Quoi d'autre?
Ouais, bah, c'est ça, on se met pas de limites. C'est en fait, dès le début du projet, en gros, c'était des boucles de musique électronique sans forcément un style précis et une voix par-dessus. Et donc, grâce à ça, après, derrière, on va plutôt vers des esthétiques un peu, je sais pas moi, le rêve, l'éthéré, l'espace, des trucs un peu comme ça.
Les extraterrestres.
C'est ça, complètement.
Un truc un peu planant.
Oui, voilà.
C'est
voilà.
Ça.
Et glitch aussi, ça vous parle ?
Complètement, ouais. C'est ça. On a beaucoup en fait d'effets de ce type-là dans la musique, qu'on fait. J'ai participé dans le cadre de la Austin Week, il n'y a pas si longtemps que ça, à un atelier de synthé modulaire. Et ça m'a permis de fabriquer une petite table qui fait plein de sons super bizarres. Et donc, c'est pas forcément des trucs qu'on entend beaucoup, mais voilà, dans chaque track de Kiss Doom Fate, il y en a un petit peu, c'est caché dans la stéréo et tout. Et on s'amuse beaucoup avec ça.
Ouais, c'est pas forcément des notes qui existent. Dans le glitch, il y a aussi l'idée du bug, du problème.
Tout à fait, ouais.
De la ligne de code qui s'est plantée.
Ouais. Ouais, complètement.
Et ce projet, il est plutôt récent. Quand est-ce que ça a débuté ?
Je pense que ça fait un an qu'on travaille ensemble. Ouais. C'est Yves-Paul qui m'avait proposé il y a un an de. Il m'avait envoyé quelques bouts de musique et ça m'a inspirée. J'avais plein de visions qui sont venues dans ma tête, donc j'ai dit ok, on va essayer ça.
Donc c'est toi Yves-Paul qui a fait la proposition à Mathilda de faire ce projet-là ?
Ouais, c'est marrant en fait, avec Mathilda on est voisins, donc j'ai emménagé il y a 2 ans dans l'appartement, et du coup un jour je suis allé voir Mathilda en concert au Joker justement, c'était quand ? C'était fin 2017 du coup ?
Ça ouais. C'était sur un projet solo Mathilda ?
Ouais, en fait c'était solo, mais ce soir-là j'étais avec un autre musicien, Goran, qui... On avait collaboré pour cette soirée-là.
Ouais, j'ai été vraiment complètement impressionné, soufflé par la voix de Mathilda. Et du coup, je me suis dit, putain, j'aimerais vraiment faire un projet. Et donc, moi, je travaille dans les esthétiques électroniques depuis assez longtemps. Mais voilà, tout seul, quoi, pour faire de la musique comme ça, pour m'amuser. Puis je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un truc un peu plus travaillé. Et voilà, d'où du coup voilà, je suis allé la voir, je lui ai dit je fais ça, est-ce que ça te dirait qu'on essaye de jammer ensemble, et voilà, ça a commencé comme ça.
Du coup, je suis en train d'imaginer, c'est en rentrant peut-être, vous vous êtes rendu compte que vous habitiez au même endroit, enfin là je suis en train de me faire mon film de voisin, rien à voir. Est-ce que ça a été évident tout de suite autour de quel univers musical vous alliez vous retrouver ? Comment est-ce que vous avez défini un petit peu l'identité de Kiss Doom Fate ? Est-ce que vous aviez chacun vos univers, peut-être.
Ouais, c'est vrai.
Je pense qu'on est toujours en train de définir, dans un sens, comme on est tout frais,
tout jeune,
nouveau,
ouais, c'est clair.
Ouais. Et je crois qu'au début, c'était assez... comment dire ? Il y avait un certain mystère, parce que je connaissais pas vraiment cette musique, tous les sons c'était complètement différent, particulièrement avec mon côté folk, c'était acoustique, seul, donc c'était toute une nouvelle aventure, et c'est une transition qui est plein d'adrénaline, en fait. C'est ça qui est enthousiasmant.
Ouais, puis voilà, en fait, l'esthétique, elle est pas figée. C'est vraiment un projet dans lequel on se donne pas mal de liberté. Il va y avoir certains sons qui vont être un peu plus trip-hop, vraiment planant, et puis d'autres qui vont vraiment un peu tabasser un peu plus, quoi. Qui peut être voilà, sur des trucs un peu plus presque witch house, des trucs vraiment plus énervés. Ça dépend vraiment en fait de chaque chanson, et on en écrit encore beaucoup en fait. On est assez prolifique, et du coup sur les nouvelles qu'on est en train d'écrire, c'est pareil, ça part un peu dans tous les sens, avec la voix de Mathilda qui reste quand même le lien sur tout ça, quoi.
On va parler aussi de comment vous travaillez peut-être un petit peu après, mais j'avais aussi envie de vous demander tout simplement comment il est arrivé ce nom de projet, ce nom de groupe. Il y a 3 mots. Bah oui, forcément. Moi je me demande toujours comment on prononce les noms. Là on est Kiss Doom Fate. Comment vous en êtes devenu là ? Est-ce que ça se traduit ? Dites-nous tout.
Mathilda, je te laisse, parce qu'à chaque fois j'oublie d'où vient le nom Kiss Doom Fate.
En fait, ça vient de paroles d'une de nos chansons. La chanson, c'est Over the Waves. Et c'est... oh mince, je bloque.
Ça peut rester un mystère.
Hein. Oui, voilà. Et en fait, ça... au moins dans ma tête.
Ça fait une révélation.
C'est,
quoi,
ouais, c'est. Je vois un peu un aspect apocalyptique, mais aussi beaucoup d'espoir et l'avenir, le mystère. Donc, plein de couleurs.
Moi, c'était un moment où on se prenait la tête depuis 2 semaines pour essayer de trouver un nom. Et je me suis dit, ça sonne super bien, en fait. C'est, ces trois mots-là, comme ça, Kiss Doom Fate, pour moi, ça passait. Bon, je me suis rendu compte que, voilà, pour pas mal de gens, ça passe moins, mais c'est pas grave. On a envie de rester sur ce nom-là, voilà, qu'on trouve un peu bizarre et qui nous correspond bien.
Ouais, et ce que j'aime bien aussi, c'est que, en fait, les mots... Pour moi, ça n'a plus vraiment de sens. C'est plus une sorte de percussion. C'est rythmé. C'est kiss, doom, fate. Ça fait plus comme la musique, en fait.
Ouais, c'est un début de morceau, presque. Ouais. Et pour les non-anglophones qui nous écoutent, vous les traduiriez, ces trois mots-là?
Bah, kiss, du coup, un peu baiser et bisous. Doom, alors c'est toujours dur à traduire en français. C'est genre malédiction, un peu, c'est ça?
Ouais.
Voilà.
Une perte.
Perdre, ben voilà, c'est ça.
Je me suis renseignée.
un excellent jeu vidéo. Et Fate, donc la destinée,
le destin.
Ouais, ouais. Ça. Donc voilà, c'est trois concepts vraiment très très différents. Et bah, qu'on aime bien associer. Et ça, je trouve que ça représente bien notre musique, où il y a des trucs très doux, des trucs très, très énervés.
Qui nous emmènent à plein d'endroits. Je vous propose, avant qu'on parle aussi de comment vous travaillez, comment vous fonctionnez ensemble, qu'on écoute un de vos titres.
Okay.
Et c'est Original Vortex.
Thank you.
écoutez ou rejoignez l'oreille curieuse de Radio G. Et ce soir, nous sommes avec Mathilda et Yves Pop. Yves Paul.
Pas mal.
Parce qu'en fait, j'étais déjà en train de lire la suite de ma petite fiche qui parlait du duo pop Kiss Doom Fate. Et moi, j'ai aussi envie de savoir comment est-ce que vous travaillez ensemble. Comment naît un morceau de Kiss Doom Fate?
Comment? Notre processus de création est toujours en train de changer. Mm-hmm. Mais sur la première année là, qui s'est écoulée, c'était souvent le même genre de manière. C'est-à-dire, je commence en fait par travailler dans mon coin sur des boucles, en fait, des mélodies ou des textures ou des rythmes, ça dépend. Et après, en fait, le plus tôt possible, en gros, je vais les proposer à Mathilda. Et voilà, dès le début, on essaye de travailler ensemble sur « Ah bah ouais, ça, c'est sympa, ah, ça, ça me donne une idée, etc. » Et donc, on essaye d'aller vers de plus en plus, de commencer par travailler directement tous les deux dès le début. Voilà, parce que ça permet en fait d'arriver plutôt à des trucs qui nous plaisent vraiment. Parce que voilà, des fois quand je suis trop longtemps dans mon coin, par exemple, je vais composer un truc dans une clé qui va pas être parfait pour Mathilda et au niveau de sa tessiture. Et donc quand c'est des choses à modifier à la fin, c'est un peu plus dur que de le faire dès le début. Donc voilà juste un exemple.
Donc toi, t'es à la composition du morceau. Et Mathilda, toi, comment tu rebondis, réagis à ces propositions-là?
Donc Yves Paul, il m'envoie pas mal de musique. Et il y a certains tracks qui m'inspirent vraiment et j'ai plein d'images spécifiques de quelle parole, quelle histoire est dans cette chanson. Et donc, j'écoute, je commence à écrire les paroles, je mets des mélodies, des idées comme ça. Après, j'envoie le track à Yves Paul et on fait un peu
des allers-retours.
Voilà. Et lui dit « Oh, ouais, j'aime bien ça et peut-être tu devrais essayer un petit peu plus ça. » Et puis je dis « Oh, ok, bonne idée » ou « Non, pas du tout, j'aime pas ça. » Et donc, ouais, c'est bien parce que, en fait, j'ai plein de liberté dans ce projet. Et il y a quand même une sorte de structure. Et dans cette structure, il y a le défi pour moi. C'est comment je peux trouver un moyen d'être créative dans cette structure de dream pop, électro, tout ça.
Et tu disais, toi, tu viens aussi de projets plus folk à l'origine. Qu'est-ce que ça a changé de te retrouver aussi dans cet univers-là plus pop et électro?
Je me défoule d'une totalement autre manière. J'ai l'impression que ça a réveillé un autre aspect de ma personnalité que vous allez voir sur scène le mardi. j'ai beaucoup plus de liberté de bouger sur scène, bouger et puis aussi
interagir avec le public,
voilà,
et tout.
Interagir et aussi le fait d'être avec quelqu'un sur la scène, c'est vraiment j'adore. On a une bonne énergie ensemble et il y a toutes ces faire cette aventure avec quelqu'un, ça fait du bien.
Et tu parlais d'histoire tout à l'heure, Mathilda. Est-ce qu'il y a des histoires que vous vous racontez en particulier quand vous composez, réalisez un morceau?
Ouais, il y a toujours des images qui nous viennent. Enfin, voilà, quand on fait de la musique, au départ, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de clip, il n'y a pas d'illustration. Donc c'est tout dans la tête. Et donc en général, en fait, là par exemple, sur la dernière qu'on a composée, qu'on va jouer d'ailleurs, mardi 18, une toute nouvelle. Par exemple, les images qu'on avait en tête, c'était un peu des trucs genre château hanté, des fantômes, voilà, un peu la chanson d'Halloween, quoi.
Ouais.
Et voilà, qui va un peu qui est assez différent de ce qu'on fait d'habitude, mais voilà, je pense qu'elle est super solide et assez sympa. Donc voilà, on travaille beaucoup avec des images comme ça.
Vous êtes de retour sur le direct de l'Oreille Curieuse. On était dans les archives avec Kiss Doom Fate, que vous ne verrez pas au Jokers mardi soir, mais dont vous pouvez découvrir le nouvel EP dès maintenant. Et on écoute un second extrait, c'est Dark Age. Human hunters on the cold, cement streets wearing bloodstones around their necks, sitting metal traps heartbeat. Where are they going to next? Come the dark air. Extrait de l'EP 4 titres de Kiss Doom Fate. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G. Il est précisément 18h33 à cet instant précis. Je vous assure que la pendule hyper précise de la radio vient de l'indiquer. On va retrouver la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît pour un agenda des actualités de la recherche et pour lui laisser le temps de relire une dernière fois ses notes et d'entrer dans ce studio. Je vous laisse savourer ce délicieux jingle. Salut Benoît.
Salut, bonsoir à tous.
Tu vas essayer de te rappeler de mon prénom.
C'est ça, Annie, bien sûr.
Vous savez sur quelle antenne tu es, dans quelle émission, non, de quoi tu nous parles.
Je suis à la radio, mais alors, je ne sais plus sur quelle planète.
Sur quelle planète? Uranus est une très jolie planète. Ouais. Pour remettre tes idées en place, on parle science, nature, environnement, mais en fait tu connais le sujet par cœur.
Par cœur non, mais j'essaye de glaner tous les 15 jours des informations à droite et à gauche pour les partager aux auditeurs.
Et c'est très gentil. Alors, qu'est-ce que tu as glané cette semaine ?
Eh bien, cette semaine, quelques dates à cocher dans l'agenda des vacances.
Ah, mais oui, c'est les vacances.
Alors, en termes d'expo, vous avez encore la possibilité de voir au Grand Théâtre une exposition sur les appareils scientifiques qui bénéficient de temps en temps d'animations. Alors, renseignez-vous, ça peut être intéressant. Il y a même des visites théâtralisées, me semble-t-il. Donc, cette collection est... s'appuie sur les collections, cette exposition s'appuie sur les collections de l'Université catholique, donc d'anciens appareils scientifiques, principalement de physique, de chimie. Mmh. Et donc, il y a dans le cadre des animations, ces appareils fonctionnent et fonctionnent bien. Donc, ça permet de faire de la science et de découvrir des principes, alors je dis bien connus, mais tels que la gravité. Enfin, il y a plein de petites choses.
Et puis ça devient beaucoup plus concret aussi.
Exactement, ouais. Manipuler les machines, c'est toujours intéressant. Autre exposition, vous pouvez voir en ce moment, et alors bon, ça va durer, mais profiter des vacances pour y emmener familles et enfants. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Angers, donc vous pouvez voir un reptile marin qui a été extrait c'est plus une carrière, mais une vieille cave trop gros.
Feu, une carrière.
Feu, ouais. Des carrières souterraines.
De la terre.
De la terre. Donc, c'est extrait d'un gisement de tuffeau. Et ce reptile, c'est une grosse bête dont, pour la première fois, une reconstitution à l'échelle réelle est présentée. Donc, c'est assez impressionnant de se retrouver sous cet animal et puis voir quels os ont été extraits. Enfin, il y a une partie du squelette de la bête, etc. Donc, ça fait des sorties sympas. Avec ou sans les enfants.
Voilà, faites ce que vous voulez.
Exactement.
Voisins, les amis, ça marche aussi.
Ouais. Autre chose, une conférence intitulée « Quelle nature en ville ?» Donc, qui se déroule le 29 octobre prochain à 20h. Lieu un peu inhabituel, c'est à Molévrier. Alors Molévrier, c'est assez loin d'Angers, hein, c'est près de Cholet.
Oui, c'est
un peu au-delà de Cholet. Ouais. C'est la ville où on peut aussi visiter... Alors, au printemps, en été, c'est bien. Le parc oriental. Donc, c'est une ville connue pour ça. Donc, le thème de la conférence, quelle nature en ville ? Alors, donc, c'est une conférence de Gilles Clément, qui est jardinier, botaniste, écrivain.
Très connu et reconnu.
Voilà, sur la place de la nature en ville. Donc, c'est une conférence gratuite. Ça se passe à la salle des fêtes, place de la mairie, donc à Molévrier. Donc, c'est le 29, mardi prochain, je crois.
Ouais, c'est mardi.
C'est mardi. Voilà, date à cocher, ça vaut le coup, de faire un peu de route pour aller voir ça.
Ouais.
Autre info, avant la prochaine chronique dans 15 jours, le 5 novembre, donc c'est un mardi aussi.
La semaine suivante.
Et ça se passe pas à Angers non plus, ça se passe à Beaupréau, donc au cinéma Jeanne d'Arc, il y a le mois du film documentaire. Alors, ça doit être une opération globale. Hein.
Oui, le mois du film documentaire, c'est à travers toute la France, tout le département. Voilà. Il y a plein de choses.
Eh bien, dans ce cadre, Terre des Sciences et la ville de Beaupréau organisent un ciné-débat autour du documentaire « Océan, le mystère plastique ». Voilà, thème d'actualité.
Oui.
Voilà, les déchets qu'on retrouve dans, entre guillemets, un continent de plastique.
Ouais, une grande partie de la planète,
voilà.
L'eau.
Donc, ce documentaire est réalisé par Vincent Perrazio, sera suivi d'un échange avec des chercheurs spécialisés dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il y en a qui travaillent sur ce sujet à Angers.
Génial.
Donc, vraiment, on a le doc plus l'échange derrière, c'est nickel.
Donc, le 5 novembre.
Le 5 novembre à Beaupréau.
Au cinéma, ça marche.
Le lendemain, le 6. Plus près de nous cette fois, à Angers.
Allez, que se passe-t-il ?
Le 6 novembre, à l'Institut Municipal, une conférence dans le cadre des cycles organisés par Terre des Sciences aussi. Donc il y a un cycle en ce moment qui s'appelle Alimentation. Voilà. Et la conférence qui est la deuxième du cycle, le 6 novembre, a pour thème Alimentation, deux points, la naissance du goût.
Oui, c'est
et voilà,
question,
on
ça.
Entend plein de choses sur comment il faut nourrir les enfants, il faut leur infliger tous les goûts possibles pour éduquer le goût. Est-ce que c'est la bonne méthode ? On ne sait pas.
Et puis ça évolue aussi quand on grandit.
De toute façon, à 14-15 ans, ils mangent tous des tacos et des burgers. Hein, donc vous faites ce que vous voulez quand ils sont petits. Mais
c'est leur aliment naturel.
On arrive là. Hein. Non, c'est une boutade. Mais c'est un peu vrai quand même.
Okay.
Donc cette conférence sera proposée par Isabelle Maître, qui est enseignante-chercheur en agroalimentaire, donc à l'INRA, enfin dans le groupe ESA INRA. Mmh. Donc, et c'est gratuit.
Super.
Donc 19h30
le
6 novembre à l'Institut Municipal, donc en plein centre-ville.
Trop facile.
Voilà. Maintenant, prenons un peu de temps pour parler un peu d'actualité scientifique.
Nous avons le temps.
Nous avons le temps, c'est parfait. Figure-toi qu'une étude parue récemment s'intéresse aux spécimens, aux millions de spécimens conservés dans les musées d'histoire naturelle dans le monde.
Génial.
Avec la démarche d'un laboratoire particulier, donc c'est une étude menée par l'anglaise Nathalie Cooper, qui est chercheuse au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, qui est le premier auteur de l'étude. Dans son labo, il s'intéresse aux préjugés de genre dans le milieu scientifique.
Mmh.
Bon, voilà. Par exemple, dans les chercheurs, il y a une surreprésentation des hommes blancs dans les meilleurs postes. Bon, voilà, c'est un exemple de...
Oui, qui est lié au contexte social de la société en général.
Voilà, c'est ça. Et donc là, ils se sont dit, tiens, si on étudiait cette représentation de genre dans les collections,
dans les spécimens naturalisés,
dans les spécimens, voilà.
Donc les hiboux,
ils ont étudié et passé en revue 2,5 millions de spécimens d'oiseaux et de mammifères,
ouais.
Donc dans les 5 plus grands muséums du monde, enfin parmi les 5 plus grands, je pense que c'est eux aussi. Donc Londres, Paris, New York, Washington et Chicago.
Mm-hmm.
Donc spécimens collectés depuis le 18e. Donc, principalement, alors c'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui, mais les collectes se faisaient par la chasse et le piégeage.
Mmh.
Alors, les résultats sont fidèles à ce qu'on peut imaginer. Hein.
Mais dis-nous tout.
Voilà, donc, ces statistiques sexuées à grande échelle ont donné le résultat suivant. Donc, 40% des oiseaux et 48% des mammifères sont des femelles quand le sexe est déterminé dans le spécimen. C'est pas le cas tout le temps. Parfois, c'est très difficile de distinguer le mâle et la femelle chez certaines espèces.
Mmh.
Donc voilà, globalement, il y a quand même nettement moins de femelles dans les collections que de mâles. Hein.
Mmh.
Et dans certains groupes animaux, c'est beaucoup plus important. Chez les passereaux, on a seulement 9,7% de femelles. Les chauves-souris 9,9%, etc. Donc chez les grands herbivores comme les artiodactyles, on a seulement 40% de femelles, alors que dans la nature, les femelles sont majoritaires.
Ah, il y en a même plus.
Oui, curieux. Hein.
C'est...
Alors pour d'où ça vient ces disproportions Alors une des explications, c'est quand on chasse, eh bien les mâles sont plus visibles. Ils sont plus impressionnants en taille. Ils sont aussi plus colorés, souvent. Mmh. Alors, c'est le cas chez beaucoup de familles d'oiseaux.
Ouais.
Où la femelle, c'est aussi une adaptation, mais pour s'occuper des œufs, et elle se camoufle dans l'environnement, donc avec des couleurs plus ternes, en mode camouflage. Alors que les mâles, pour séduire les femelles, revêtent leur plus beau plumage
grave.
Avec plein de couleurs, et ils gonflent le plumage et tout, donc ils sont plus visibles.
Le paon, par exemple.
Chez les cerfs, par exemple, les cervidés, les mâles ont des bois assez importants, et donc ça attire aussi les chasseurs. Quoi. Donc, parfois aussi, quand on piège les animaux, on ne sait pas ce qui va arriver dans le piège. Mais ceci dit, c'est d'un point de vue du comportement, les mâles, eux, vont défendre leur territoire. Et si, par exemple, on veut piéger des mâles, des espèces avec des aplants, c'est les mâles qui vont préférentiellement venir pour défendre leur territoire. Donc, on capture plus de mâles.
Mmh.
Car les femelles ne répondent pas forcément à ces appels. Donc voilà, l'inégalité de la représentation des genres dans les collections, c'est anecdotique, drôle et tout, ça a quand même une conséquence.
C'est quand même intéressant aussi.
C'est que dans ces collections-là, on n'a finalement pas une représentativité idéale du monde vivant. Le tableau, il n'est pas complet, quoi. Majoritairement, ouais. on a moins de femelles.
Il y a un vide encore plus grand dans les femelles, quoi.
Voilà, donc si on fait des études à partir de ces collections, il faut tenir compte de ce biais.
Mmh.
Alors... Pour aller plus loin, et c'est une discussion qu'on a eue avec des collègues, on a la même chose dans ces collections, il n'y a quasiment pas ou nettement moins de jeunes, d'immatures, voire de nouveau-nés. Ils sont inexistants. Pourtant, ils sont dans la nature et ils sont représentatifs des espèces. Donc, c'est aussi gênant parce que, évidemment, d'un point de vue génétique, il y a des différences entre les mâles et les femelles, donc on ne retrouve pas dans ces collections. Voilà, oui. C'était une étude, une grosse étude. Ils ont dû passer beaucoup de temps à faire tout ça, mais tout à fait intéressante. Mais peut-être que les gens qui s'occupent des collections vont orienter maintenant
en tout cas, y penser
leur collecte et pas forcément vers les plus beaux spécimens, les plus colorés, pour rééquilibrer les choses.
Ouais. Waouh.
Voilà cette info.
Bah, je trouve ça hyper intéressant.
Une autre info, alors là, elle m'a un peu surprise, mais je découvre complètement. Tu sais qu'en 2020, il y a un événement mondial hyper important qui a lieu tous les 4 ans.
Des Jeux Olympiques.
Ouais, voilà.
J'ai trop peur.
Non, mais je te faisais confiance. Donc, en 2020, ça aura lieu au Japon.
Oui.
Au Japon. Alors, figure-toi que le Japon, qu'est-ce qu'ils viennent de faire au Japon ? Ils viennent d'importer quelques virus parmi les plus dangereux du monde sur leur territoire.
Volontairement.
Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est qu'ils se préparent à accueillir des millions de touristes, des millions de visiteurs internationaux du monde entier. Et en prévision d'une éventuelle épidémie, ils se sont dit, on va avoir les souches virales chez nous de manière à pouvoir travailler en amont et réagir en cas d'épidémie. Donc, ils vont faire des tests de thérapie ou de vaccins sur ces souches avant les Jeux Olympiques.
C'est des virus pour les humains, pour les animaux, pour un peu tout le monde.
Alors oui, je peux t'en citer quelques-uns. Alors tu vas voir, les noms font un peu peur, notamment le virus Ebola.
Oui,
ça c'est le truc, sympa. Il y a quand même des milliers de morts dans les régions où il sévit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faut que je retrouve ma liste. Enfin, des virus, des agents pathogènes plutôt costauds, ils sont tous classés au niveau 4. En fait, il y a une échelle internationale sur la biodiversité,
la
biosécurité, sur la dangerosité des choses. Et niveau 4, c'est le top. Il n'y a pas plus dangereux. Donc, évidemment, les médecins et les scientifiques du Japon se félicitent de cette...
De la démarche.
Et d'autres, par contre, ne sont pas contents et qui pointent du doigt les risques de sortie du laboratoire de ces virus et donc d'épidémie.
En fait, on dirait un scénario de film d'horreur. Mais
tout à fait. Ça pourrait être un vrai scénario. Donc, y a-t-il vraiment un risque ? Alors, a priori, le laboratoire est vraiment ultra spécialisé dans la manipulation et l'étude de ces hôtes de ces pathogènes extrêmement dangereux. Donc, on dit aussi que les autres pays hôtes des JO précédemment n'ont pas eu besoin d'importer ces virus. Pourquoi ? Mais parce qu'ils avaient déjà ces virus-là dans leur laboratoire. Alors voilà, peut-être que le Japon a fait le bon choix. En tout cas, si ça peut aider à trouver, à améliorer les actions en cas d'épidémie, c'est une démarche louable. Je pense qu'on peut... s'il y a des structures qui peuvent accueillir ça, ces choses, en toute sécurité, il faut le faire.
C'est sans doute pas des savants fous
qui
font ça par-dessus la jambe. Ouais.
Donc voilà, c'était une information de santé publique.
Bah, je trouve ça incroyable d'y avoir pensé.
Voilà. Après, évidemment, on est dans une période où il y a pas mal de soucis de sécurité, notamment il y a des attentats, et y compris des attentats biologiques. Donc c'est une menace à ne pas négliger. Exactement. Alors, une autre info c'est pareil, j'étais extrêmement surpris de voir ça. L'Égypte est connue pour ses pyramides, la civilisation égyptienne.
Les hiéroglyphes, les papyrus.
Les hiéroglyphes, tout ça. Et figure-toi qu'on pourrait imaginer que, en Égypte, on connaît depuis tellement longtemps, on s'y intéresse depuis tellement longtemps qu'on a à peu près tout trouvé. Et ont été mis à jour, près de Louxor, plus de 20 sarcophages, tous scellés. Alors, c'est assez remarquable comme découverte, parce que moi, honnêtement, je pensais qu'une dans un pays qui suscite tellement l'intérêt des archéologues du monde entier...
Depuis bien longtemps.
Exactement. Donc, Voilà, on a trouvé ni plus ni moins qu'une des plus grandes et plus importantes découvertes archéologiques de ces dernières années. Hein. Donc, c'est 20 sarcophages en bois.
Ouais.
Ils ont été scellés dans une immense cache, en fait, dans une nécropole. Alors, c'est situé à El Assassif, donc sur la rive ouest du Nil, dans l'ancienne cité antique de Thèbes. Donc, c'est une ville située au sud du pays et qu'on appelle aujourd'hui Louxor. Donc, les sarcophages, ont été répartis sur deux niveaux, dans une immense tombe, en fait. Hein, mais exactement comme ils avaient été laissés par les anciens Égyptiens.
Hein. Peut-être des milliers d'années, quoi.
Exactement. Alors, précisément, la date, c'est vers 1539 avant J.C.
Ah, ok, donc il y a peut-être 3000 ans, même plus.
Bah, 1539 plus 2019.
Allez.
Je vous laisse faire le compte.
Ouais.
Donc oui, c'est assez ancien. Et donc les sarcophages abritent probablement des prêtres et leurs épouses. Donc il faut savoir que c'est des personnages très importants à l'époque. Les prêtres, ils commandaient et dirigeaient tout le sud de l'Égypte. Donc même s'il y avait un pharaon au nord, mais peut-être que la région du sud aurait été dirigée par les prêtres. Donc voilà, découverte remarquable en Asie. Alors il y a des vidéos sur le web.
On peut voir les
sarcophages. Ouais, sans problème.
Génial.
Ouais.
T'as d'autres infos, Benoît?
C'est comme tu veux.
Bah en fait, on est déjà en retard.
Et voilà, donc je les garde sous le coude pour la prochaine.
Pour dans deux semaines. Impeccable. Bah merci beaucoup pour ces actus de la recherche. Prochaine chronique science, nature, environnement, on sera au mois de novembre. On sera le 7.
Voilà, c'est ça.
C'est une information. Et donc, nous sommes un petit peu en retard pour rendre l'antenne. Vous allez écouter I See Myself. Nous, on se retrouve lundi à 18h10. Je serai avec le Festival des Éclectiques. Et sachez que le site de Radio G fonctionne. Vous pouvez donc retrouver à nouveau tous les podcasts de vos émissions préférées. Bon week-end. N'oubliez pas qu'on change d'heure. Je ne sais pas si on dort une heure de plus, une heure de moins. Si, c'est ce week-end. Ah non, c'est ce week-end. Là aussi, c'est une information. Vérifiez quand même, hein, des fois, on ne sait jamais. Bon changement d'heure, à lundi. Yeah.
Till I die, I'm alive.